sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le chancelier de l'Institut, monsieur le chancelier honoraire, messieurs les secrétaires perpétuels, chères consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans le pays de Saintonge, dominant la vallée de la Seugne, à 8 km au sud-est de Jonzac, Charente-Maritime, en haut d'une colline donnant au paysage une ouverture sur un panorama particulièrement riant, se trouve le hameau de chez Bézille, commune de Champagnac. Assurément, comme l'a rappelé son ami François-Julien Labruyère lors des émouvantes journées d'hommage rendues tout récemment encore à Jean Ménard, les 18 et 19 janvier dernier à la Sorbonne, un portrait de Jean Ménard, né à Champagnac, le 23 février 1921, est décédé à Bordeaux le 9 août 2016, comme d'ailleurs celui de son père, Raymond, né à Clairac le 15 janvier 1891, décédé le 2 juin 1978 à Champagnac, serait incomplet, incorrect et même absurde sans leur dimension charentaise. C'est là, en effet, au 3, chez Bézille, où ses parents avaient fait construire, que Jean Ménard rangeait tous ses livres au premier étage de la maison, que tout au long de sa vie, il entretient avec soin, l'agrandissant à plusieurs occasions, perpendiculairement, en un esprit qu'on serait donc tenté de dire d'emblée géométrique, par des bâtiments plus bas, parallèles, à ceux de l'exploitation agricole, comme pour bien la distinguer de l'œuvre de ses parents. L'éloge rituel d'un académicien décédé est toujours délicat. Peut-il prêter, sauf peut-être en de rares occasions, à l'expression de sentiments profonds et d'émotions vraies ? C'est Jean Ménard lui-même qui le rappelle, dans son enquête sur la sensibilité de Fontenelle, évoquant les fameux éloges des académiciens de ce dernier, dont il ne semble guère qu'on puisse, au premier abord, tirer des matériaux importants. Sauf à éviter le double écueil de la notice érudite et du panégyrique solennel. Ce à quoi pourtant, finalement, Fontenelle parvient, parce qu'il sait prendre, je cite Jean Ménard, le ton qui convient à la société de confrères que constituait l'Académie et en concevant l'éloge à la fois comme portrait et biographie. Non pas portrait de l'homme qui pose, mais de celui que l'on prend sur le vif. C'est ce que j'aurais souhaité faire moi-même si j'avais eu l'honneur et le bonheur de connaître personnellement le grand pascalien, dont nous savons tous que lui tenait à cœur, dans sa propre démarche d'enquête, l'attention minutieuse pointilliste aux détails, à la biographie, y compris dans ce qui est de prime abord anecdotique ou au portrait psychologique et social d'auteur seulement en apparence mineur. Parce que la partie importe pour comprendre le tout, de même que l'ensemble seul permet, en fin de compte, d'éclairer à son tour le fragment. C'est ainsi que ce prodigieux savant qu'était Jean Ménard fait sortir de l'ombre, par un subtil travail de marqueterie, autant de figures d'un puzzle de plus en plus lumineux, où nous n'ignorons plus rien désormais de l'érudit Jean de Corde, chanoine de Limoges du début du XVIIe siècle, de ce solitaire de Port-Royal qui était l'évêque de Bazas, de Henri Litolfi Marconi ou de Martin Barcos, personnages sans l'analyse détaillée desquels, nous le comprenons vite, nous n'aurions aucune chance de pénétrer toutes les finesses et nuances des disputes internes qui se jouaient dans ce foyer de culture que constituait alors Port-Royal, ni plus généralement de mesurer l'intelligence de ce moment exceptionnel de l'histoire intellectuelle, mais aussi sociale et politique, qu'aura été au XVIIe siècle l'âge classique. Comment donc ne pas dire ma gêne à m'exprimer, moi qui ne l'ai pas approché personnellement, en présence de tous ceux qui, nombreux encore aujourd'hui, ont aimé, admiré et connu le grand Jean Ménard, ses proches, ses élèves, plus que ses disciples. Il n'aimait pas, dit-on, ce mot, chacun étant à ses yeux irremplaçable, qui sont devenus à leur tour des maîtres, et quels maîtres ! Rarement un tel savant aura bénéficié d'une telle unanimité et d'une telle aura, qui va bien au-delà de ses élèves et amis, et qui traverse aussi bien d'autres disciplines que celles déjà nombreuses où il excellait, et bien au-delà de la France. Ce n'est donc pas sans une crainte que je livre aujourd'hui à votre indulgence l'hommage que je veux lui rendre, comme tant d'autres l'ont déjà fait, qui sont et qui seront bien mieux à même que moi de le faire. Jean Ménard aimait plus que tout commencer par le rappel des faits. Parmi ces faits, quelques repères donc purement biographiques et l'appui aussi de quelques témoignages et proches et d'amis. L'universitaire, tout d'abord. Sans doute Jean Ménard est-il charentais, mais c'est aussi un homme qui, embrassant très tôt la carrière universitaire, va passer pas mal de temps, comme le veut désormais le siècle, dans les trains et dans les avions. Il voit le jour près de Jonzac, où sa mère, bien que résidant alors à Laval, a tenu à revenir accoucher. Contrairement à ses proches qui travaillaient dans le cognac, son père Raymond, natif de Clairac dans le sud Saint-Onge, et sa mère Julia, elle aussi originaire de chez Bézy et quasi jumelle de son mari, vont faire carrière dans les postes et télécommunications, son père terminant ce parcours comme receveur principal de la Seine. Nous avons beaucoup bourlingué la banlieue parisienne, Angoulême, Rennes, Bordeaux, Paris, dira Jean Ménard. Élève à Bordeaux, il entre à la rue d'Ulm, section Lettres, en 1941 et devient agrégé en 1946. Il épouse le 10 septembre 1946, après son engagement dans l'infanterie, Suzanne Duchemin, sévrienne, agrégée de lettres. Ils auront 5 enfants, les 3 premiers nés à Paris, les 2 derniers à Bordeaux, Michel, Claire, Étienne, Denis et Anne. Tracer le portrait de Jean Ménard, c'est d'abord tracer le portrait d'un universitaire accompli dont la carrière commence au lycée de Valenciennes pour se poursuivre très vite à l'université où il obtient un poste d'assistant à la Sorbonne. Après une année au lycée Montaigne de Bordeaux, il occupera un poste de professeur extraordinaire à l'université de la Sarre et les voyages en train commencent. Élu en 1956 à la faculté des lettres de Bordeaux, il achève son doctorat d'état et lettres avec une étude remarquable, forte de plus d'un millier de pages, à l'époque bénie où ce luxe était encore possible dans l'université française, qui paraîtra en 1965 chez Desclées de Brouwer en 2 volumes, Pascal et les Rohanais, presque en même temps qu'un essai, Pascal devant Dieu, qui, plusieurs fois réimprimé et traduit, connaîtra le même succès que le Pascal, l'homme et l'œuvre, paru en 1951, objet de plusieurs réimpressions et de 3 traductions en anglais, en japonais, en espagnol. Ce sont ces succès qui conduisent les éditions des Clés de Brouwer à lui proposer de se lancer dans la monumentale édition en 7 volumes de l'œuvre complète de Pascal dans la Bibliothèque européenne sur la base d'une édition critique expliquée et présentée en français moderne pour plus d'accessibilité. Illustration d'un trait de caractère constant de Jean Ménard, toujours faciliter l'accès aux textes anciens en les traduisant en français actuel, ou encore les faire imprimer en petites brochures qui seront publiées chez des Clés de Brouwer, parfois jusqu'à la simple piqûre à cheval pour les moins épaisses. Des 5 puis 7 volumes prévus, 4 épais volumes paraîtront, dont le premier sera si richement documenté sur l'entourage de Pascal qu'il ne portera pas à proprement parler sur lui, et que le quatrième et dernier volume paru, les derniers n'ayant malheureusement pas vu le jour, dépassera les 1700 pages. Voilà qui nous met en sans doute, comme l'a noté le professeur Philippe Sellier, sur les traces, je le cite, d'un virtuose de la recherche archivistique, art dans lequel il s'était perfectionné grâce au conseil d'une conservatrice, Madeleine Jürgens, avec laquelle, entre autres, il publia en 1960, au PUF, les documents du minutier central concernant l'histoire littéraire 1650-1700. Et Philippe Sellier d'ajouter, ainsi, la paléographie du XVIIe siècle n'eut bientôt plus de secret pour lui. Travaillant sur Madame de Caumartin et voulant démontrer quelle est la mystérieuse destinataire des mémoires de Ray, je l'avais un jour accompagné aux archives nationales et je fus émerveillé de la facilité avec laquelle il déchiffrait même les pattes de mouche des tabellions les plus abscons. Cette maîtrise lui fut très utile dans le travail d'identification des écritures, si nécessaire en particulier, à propos de Pascal et de son entourage. Fin de citation. Jean Ménard est élu à la Sorbonne en 1969, un an avant la publication du volume 2 des œuvres de Pascal. Au cours des 20 années qui suivront, paraîtront des dizaines d'articles, de comptes rendus, un nouveau livre en 1976, Les Pensées de Pascal, révisé et réédité en 1993. Puis l'édition par l'Imprimerie nationale, enrichie d'une superbe préface qui fera date de La Princesse de Clèves, illustré par Roger Vieillard et que les éditions Garnier-Flammarion reprendront en livre de poche. Mais si Jean Ménard est considéré par tous comme un pascalien majeur, voire comme le plus grand critique qui se soit jamais penché sur l'œuvre multiforme de Pascal, son œuvre s'étend à l'ensemble de la culture du XVIIe siècle. En témoigne le Précis de littérature française du XVIIe siècle, qu'il dirigea en collaboration avec Marc Fumaroli, Roger Zuber et Noémie Epp, et plus encore l'extraordinaire volume de plus de 600 pages « La culture au XVIIe siècle » paru en 1991, fruit de l'amitié, valeur qui lui était si chère, sous-titré « Enquêtes et synthèses », somme où se côtoient certes Pascal et Port-Royal, mais aussi nombre de sujets et d'auteurs, Corneille, Molière, Madame de Lafayette, La Rochefoucauld, Madame de Scudéry, Fontenelle, les mémorialistes, nous offrant une perspective magistrale sur le grand siècle, que viendra compléter une remarquable analyse en 1994 sur la poétique des fables de La Fontaine. Tous ces textes nous font découvrir un érudit, un éditeur, un traducteur, un philologue, un spécialiste de littérature comparée, un critique littéraire, un historien, mais aussi un géographe littéraire, un historien des sciences, comme doit l'être tout pascalien, qui se fait tour à tour physicien pour les expériences nouvelles touchant le vide, mathématicien pour les traités du triangle arithmétique ou de la roulette, théologien pour les écrits sur la grâce et les provinciales, philosophe pour l'entretien avec Monsieur de Sacy et les pensées. Toujours en quête d'exploration, qui le conduiront à de superbes trouvailles, comme celle livrée au lecteur du volume 3 des œuvres paru en 1991. Viendra un an plus tard le volume 4, qui sera malheureusement le dernier, l'édition restant donc, pour notre plus grande tristesse à tous, inachevée. Mais évoquer l'universitaire, c'est rappeler que pour Jean Ménard, la recherche était indissociable, tant des obligations administratives qu'il n'a cessé d'honorer, que naturellement, et plus que tout, de l'enseignement. Un enseignement ouvert dans ses séminaires à une multitude de sujets divers, où sa bienveillance souriante faisait merveille. Comme l'a rappelé le professeur Gérard Ferrérol, je le cite, « Dans l'enseignement de Jean Ménard, ce qui frappait était non seulement la clarté, la solidité et l'appréhension simultanée des faits les plus concrets de l'histoire littéraire et des plus hautes perspectives philosophiques, esthétiques ou théologiques, mais la capacité de renouvellement et d'ouverture. Je n'ai jamais fait deux fois le même cours, aimait-il à dire, témoignage de respect pour ses auditeurs, dont l'apprentissage devait être d'abord, selon lui, occasion d'épanouissement. Le contenu du séminaire était marqué par la pluridisciplinarité. Pascal en lui-même est un objet pluridisciplinaire, mais il était loin d'occuper l'essentiel des programmes. Seules 21 lui furent consacrées. Les autres montraient l'ouverture de Jean Ménard au rapport de la littérature avec la médecine, avec la musique, avec la philosophie, Son attention aussi aux problématiques contemporaines, que ce soit celle de la recherche avec des séminaires sur la symbolique, l'intertextualité, la narration, ou celle de la société, ainsi les séminaires sur littérature et politique, ou sur la culture féminine. Et l'on retrouvait la double postulation vers l'érudition et vers la théorie, caractéristique de la démarche de Jean Ménard, dans la coexistence de sujets exigeant une minutieuse précision historique, comme la vie littéraire dans le quartier du Marais au XVIIe siècle, et de thèmes de vaste ampleur comme la sensibilité au XVIIe siècle ou encore l'irrationnel au XVIIe siècle. Jean Ménard, c'était l'ouverture à l'autre, proche ou lointain, dans l'espace et dans le temps. Cela faisait partie intégrante, au même titre que l'élaboration des concepts et la qualité du raisonnement, de son idée de l'université. Il n'était pas aveugle, bien au contraire, devant les périls qui la menacent. Tout pouvoir, prononçait-il lors de la réception de la culture du XVIIe siècle, et toute dignité se concentre désormais dans une administration dont les actes traduisent en toute transparence les sentiments qu'elle nous porte, à nous littéraires et à nous gens de Paris IV. Mais ce constat lucide et amer était l'exacte contrepartie de son attachement à l'institution universitaire globalement et à son université en particulier. J'ai cité le professeur Ferrérol. Ses talents d'enseignant et de chercheur ne pouvaient que destiner Jean Ménard à une incroyable carrière internationale. Magnifique ambassadeur de la francophonie, comme délégué de la Sorbonne aux conférences triennales de l'AUPELF, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, ses pas le menèrent dans l'Afrique francophone, puis en Amérique du Nord et en Europe, et finalement dans des régions plus lointaines comme le Sud-Est asiatique, l'Océanie ou l'Extrême-Orient, et tout particulièrement au Japon, pays dont il se sentait très proche, pour des raisons qu'il n'expliquait pas, mais sans doute parce qu'il y avait noué une amitié forte avec le grand pascalien Yoichi Maeda, puis avec nombre de ses disciples avec lesquels il organisa en 1988 un double colloque mémorable à Tokyo, puis le Kansai, avec plus de 50 participants européens, Pascal, Port-Royal, Orient, Occident, paru en 1991. Évoquer le rayonnement de Jean Ménard, c'est aussi évoquer son rôle dans la Société des Amis de Port-Royal, qu'il présida de 1977 à 1991, société vivante qui continue chaque année à organiser son colloque d'automne et sa collaboration aussi au monumental dictionnaire de Port-Royal, paru en 2004, préfacé par lui et couronné du prix XVIIe siècle. C'est aussi rappelé qu'en 1980, il sera l'un des quatre fondateurs de l'extraordinaire banque de données que constitue le Centre international Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et l'un des inspirateurs du très actif Centre de recherche sur Pascal et le XVIIe siècle que créera en Italie en 2016 le professeur Roméo. Universitaire accompli, érudit, prodigieux, Jean Ménard a aussi dit à quel point il avait été comblé de rejoindre en 1997 l'Académie des sciences morales et politiques dont il devient le doyen en janvier 2014 et qu'il présida en 2010. J'ai évoqué jusqu'à présent l'universitaire. Je voudrais maintenant dire pourquoi cet homme du grand siècle qu'était Jean Ménard est vraiment notre contemporain. Je me concentrerai simplement sur deux points. Sa théorisation de la culture et l'idée qu'il se fait et que je crois du moins pouvoir dégager de son œuvre, du savoir et de l'encyclopédie, une conception qui va de pair avec une certaine idée de la rationalité, indissociable pour lui de la sensibilité, mais aussi d'une certaine métaphysique. Jean Ménard n'est pas seulement un exceptionnel homme de culture, il en est le théoricien. À relire les articles réunis dans ce monumental recueil « La culture du XVIIe siècle, enquêtes et synthèses », Jean Ménard se dit, je le cite, « naturellement frappé par la fréquence de l'emploi du mot « culture », inscrit d'ailleurs dans plusieurs titres. Pour lui, ce terme est évidemment employé avec beaucoup de souplesse, terme qu'on retrouve souvent du reste sous sa plume, et dont il regrette qu'il soit encore peu employé en France dans les études littéraires et historiques, a pour vertu de désigner, je le cite, un domaine plus ample que celui de la littérature, qui en est l'expression et le fruit, et qui s'y trouve encadré d'une manière particulièrement efficace. Grâce à lui, les diverses manifestations de la vie de l'esprit sont rattachées à leur fondement commun et saisies dans leurs relations réciproques. Il invite à considérer simultanément, dit-il, les idées et les formes, sans négliger leurs conditionnements économiques et sociaux, mais sans opérer de réduction desséchante. Il faut donc restituer à un climat, comme le milieu de vie de cette élite intellectuelle urbaine de Limoges, où se forma le chanoine Jean de Cordes, mort en 1642, un des hommes les plus instruits de son temps, qui se rendit célèbre pour avoir constitué l'une des plus riches bibliothèques, document essentiel évidemment, dont l'examen minutieux permet d'embrasser la formation de la culture du chanoine, mais bien sûr plus encore de saisir le sens que pouvait revêtir la formation d'un humaniste et de l'humanisme à l'époque. Et ce point de passage de la culture humaniste de la Renaissance, inspiré de Montaigne et d'Érasme, très largement historique à l'époque moderne. Comment ne pas y lire aussi, à travers ces lignes de Jean Ménard, la nostalgie de l'humanisme de la Renaissance, de cette culture historique à laquelle s'attache un évident universalisme. Comment ne pas se faire aussi une idée des valeurs qu'il prise, passion des livres, de l'érudition, frugalité de la vie, souci de l'amitié, idéal cosmopolite. Car, je le cite, « l'unité de l'Europe savante en cette première moitié du XVIIe siècle s'y manifeste de manière éclatante. Les savants d'Italie, de Hollande, d'Allemagne s'y côtoient dans un esprit de tolérance extrême, d'amitié intime, d'ouverture d'esprit, dans le souci, si l'on est catholique, de préserver la liberté de penser pour chacun, fût-il hérétique déclaré ou d'opinion suspecte. » Fin de citation. Ainsi entendu, le terme de culture offre donc des perspectives plus larges, pense-t-il, que d'autres notions, comme celle d'histoire des idées ou d'histoire des mentalités, moins proches des réalités vivantes. Obligeant souvent à déborder les limites des langues nationales, il fournit de solides assises à une authentique littérature comparée. Et Jean Ménard d'ajouter, je le cite, « Si l'on adopte un langage plus abstrait, la culture est comme le lieu des concepts qui permettent d'organiser le donné multiple des œuvres et de leurs auteurs. C'est en effet que, je le cite encore, la recherche littéraire obéit aux mêmes lois que toute science du réel. Elle prend possession d'un donné et elle s'efforce d'en rendre compte par des concepts. » Deux termes qui désignent d'ailleurs des extrêmes presque inaccessibles, car il n'est pas de donné, en comprenant sous ce mot le texte et son environnement significatif, qui ne comporte une part de construction conceptuelle. Et il n'est pas de concept qui soit tout à fait étranger à l'observation. Aussi bien existe-t-il des étages de concepts, dit-il, selon qu'ils sont situés à distance plus ou moins grande du donné. Ceux qui ressortissent à la culture se placent dans une situation intermédiaire entre ce qui caractérise directement le donné, comme ceux de prose et de vers, de genre, de date, et ceux qui désignent des catégories propres à l'humanité en général, comme ceux de tragique et de comique, de tradition et de modernité, de nature et d'art. Ils conviennent en principe à des époques limitées, encore qu'il y ait lieu de considérer la longue, comme c'est par exemple le cas de la longue fortune de la Renaissance, aussi bien que la courte durée. Ils en désignent des tendances majeures, exprimées soit par des mots issus de l'époque même, comme ceux de Burlesque, de Précieux, de Raison, d'Honnête Homme, soit créés postérieurement pour satisfaire à l'exigence d'une synthèse compréhensive. C'est le cas notamment de classique et de baroque. La définition d'une culture ou de ses différents aspects postule évidemment le recours à tout un faisceau de tels concepts, dont certains regardent le passé, la mémoire, d'autres le présent, le vécu, d'autres encore l'avenir, les valeurs. Tout, le tout, sous l'angle des idées comme sous celui des formes. Construction qu'il convient d'élaborer et de justifier par un dialogue incessant avec le donné. Embrasser un donné solide par la critique textuelle, par la connaissance des événements et des hommes, telle est donc pour Jean Ménard la première tâche de la recherche littéraire. Mais il convient ensuite, comme le physicien procède devant la nature, d'interroger ce donné à l'aide de concepts et d'éprouver leur pertinence à leur valeur explicative. L'enquête s'achève ainsi dans la synthèse, car dans la foisonnante diversité des études particulières, peut-être est-il possible de proposer quelques principes d'unité, d'essayer avec prudence un chemin de crête, d'où un seul regard puisse embrasser les aspects changeants du paysage. La qualité de la recherche tient tant à celle des questions qu'à celle des réponses. Elle tient aussi à la solidité du rapport établi entre le concept unifiant et la diversité du donné entre le tout et les parties. Par où l'on voit que la culture est pour Jean Ménard, fruit d'une expérience plutôt qu'application d'une méthode, ainsi qu'il a toujours conçu de manière socratique ses travaux comme des enquêtes ou des essais. Car ce qui l'intéresse, c'est la complexité du rapport de l'ancien et du moderne. Les ambiguïtés, les contradictions qui éclatent dans les époques, qui permettent de comprendre pourquoi, en dépit des différences, voire des oppositions, entre par exemple un Dubélé, un Erasme ou un Montaigne et un Pascal, plus de continuité se joue que de rupture. Combien tel ou tel choix esthétique pour l'ornement, ou à l'inverse pour la pureté et la sobriété de la langue, à partir notamment de Malherbe, sont indissociables de certaines visions du monde, et notamment des cassures qui s'y produisent. En un mot, ressaisir cette dialectique par laquelle, je le cite, « les forces qui, par exemple, jusque vers 1630 ont maintenu en vie les formes de la Renaissance, se sont aussi employées à les remodeler, provoquant notamment une réappréciation constante du rapport entre l'ancien et le moderne et préparant de près ou de loin la modernité plus stable qui finira par se constituer. » Comment encore, par exemple, en 1580, trois univers de formes semblent pouvoir être distingués, constitués par la force de la Renaissance. Le premier, que l'on peut appeler humanisme, le second maniériste, le troisième baroque. Ils sont étayés par trois visions du monde, l'une platonicienne et symbolique, éprise d'harmonie, la seconde pénétrée de scepticisme, d'épicurisme, d'individualisme, plus attentive à l'apparence qu'à la profondeur des choses, la troisième, puisant dans le néo-stoïcisme l'exaltation des pouvoirs de l'homme, souvent associée à Dieu, contre l'hostilité des choses, pratiquant une logique des contraires, sensible aux valeurs de la tension, de la lutte, de la conquête. De l'un à l'autre de ces courants, la modernité s'accuse. Mais tous ont en commun de s'édifier à partir d'une matière essentiellement empruntée au monde sensible et de manifester le dessin d'un art surpassant la nature. Saisi sous cet angle, le dialogue entre Renaissance et modernité acquiert une unité profonde permettant la réévaluation, par exemple, de termes à signification confuse tels que maniérisme et baroque. Se fait ainsi jour chez Jean Ménard une certaine idée, ai-je dit, de l'enquête, où il s'agit, je le cite, de viser beaucoup plus à poser des problèmes qu'à en résoudre, et qui explique peut-être l'intérêt qu'il a pris, outre pour sa sémiotique, le concept d'interprétant, l'inférence abductive et la théorie des catégories, à la lecture du logicien et métaphysicien américain Charles Sanders Peirce. Plus encore, parce qu'il faut toujours insister sur ce qui peut être repris plus que nié. Il s'agit, je le cite, d'unir la richesse spirituelle et la profondeur philosophique, comme il le fait pour retracer, par exemple, les origines grecques de l'amour-propre en traquant dans les différentes nuances de la langue, de la philotia ou philotie ou philastie, ou en revenant sur les rapprochements possibles entre le concept de diversion cher à Montaigne et celui propre à Pascal de divertissement. C'est de cette complexité que témoigne aussi l'analyse si subtile qu'effectue Jean Ménard de la célèbre distinction entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Dans ce beau texte « Figures géométriques et constructions philosophiques » chez Pascal, il démontre magistralement que l'opposition qu'on a coutume de faire entre les deux esprits est à nuancer, en raison même du sens que revêt la géométrie pour Pascal, inutile en elle-même, mais modèle du savoir, en ce qu'elle est un art des figures justes et des proportions. Et parce que ce qui guide Pascal dans toutes ses réflexions théoriques sur la géométrie, C'est à la fois le souci d'atteindre une sorte d'essence de la géométrie, au cœur de toutes ses applications imaginables, et le sentiment de l'extraordinaire extension du champ qu'elle peut couvrir, lui permettant notamment de franchir sans peine les limites du concret où elle est proprement chez elle pour saisir des notions qui sont du ressort de l'esprit. Tant il est vrai, comme le voit bien Jean Ménard, que pour Pascal, je cite, « la justesse des figures introduit à la justesse de l'esprit ». Ce qui me conduit à cette idée même de savoir et d'encyclopédisme qui rend si féconde, à mon sens, la lecture de l'œuvre de Jean Ménard. Jean Ménard a formidablement analysé la crise et la décadence que connaît au XVIIe siècle l'université, époque où, il le décrit en des pages savoureuses, les étudiants vont parfois jusqu'aux voies de fait. Je le cite, ainsi en 1679, au collège Maître Gervais, les grands boursiers s'associent avec une bande de gens armés pour frapper le principal, l'entraîner au cabaret et lui faire signer une promesse d'argent. La turbulence des écoliers est une réalité du XVIIe siècle, comme de bien d'autres époques, glisse Jean Ménard. Un abus fréquent consistait à conserver sa bourse le plus longtemps possible, 10 ans, 20 ans, en négligeant de passer les examens ou en entreprenant de nouvelles études. Mais du côté des professeurs, des régents, comme on disait alors, le tableau n'était guère plus brillant. Et encore moins, et surtout, du côté donc, du programme des études. Mais on aurait tort de voir dans ces critiques de l'université au XVIIe siècle une critique de l'université en soi et encore moins, on s'en doute, du savoir. C'est même tout le contraire, sans quoi on ne comprendrait pas la vie même qui aura été la sienne. Il note, du reste, le paradoxe. Comment se fait-il qu'un siècle, dont les valeurs intellectuelles et littéraires se sont si souvent définies contre l'université, soit devenu matière privilégiée d'enseignement universitaire ? Le paradoxe, naturellement, n'est qu'apparent. Il y a, écrit-il, université et université. Celle qui a fait du XVIIe siècle une référence privilégiée est issue de l'effort de renouvellement accompli précisément à cette époque. Le XVIIe siècle a été moins destructeur que constructeur. S'il repoussait la lourdeur et le dogmatisme du pédant, c'est qu'il réclamait un savoir et une leçon de vie. Et c'est bien à l'école de la vie que s'est mis le XVIIe siècle. S'il a rejeté son université, c'est parce qu'elle a interposé l'écran de son prétendu savoir devant une réalité qu'il aspirait à atteindre directement. C'est parce qu'elle n'offrait plus aux hommes le moyen de s'épanouir dans une société vraiment humaine. Fin de citation. Si notre universitaire est donc conquis par l'idéal intellectuel et littéraire du XVIIe siècle, c'est moins parce qu'il se définit en réaction contre l'esprit universitaire en tant que tel, il ne cesse de priser par ailleurs le mécénat scientifique, que pour l'incapacité de l'université à se départir d'un fonds scolastique aristotélicien jugé poussiéreux, et notamment à s'ouvrir à d'autres savoirs, et surtout dénoncer la philotie des savants, de ceux qui, je cite, « rejetant la voix des anciens, cherchent à établir de nouveaux dogmes au risque de n'exprimer que leur fantaisie ». Tel est le signe du pédant, du cuistre, du docteur, qu'il faut rigoureusement distinguer du docte. La philotie, c'est cette complaisance à soi, cette puissance trompeuse qu'évoquait Érasme, ressort de la flatterie, cette dureté de l'esprit et du cœur qui rend chacun clairvoyant aux défauts d'autrui et aveugle aux siens propres, celle qui engendre l'amour-propre national, l'attachement aveugle et agressif de chacun à sa propre doctrine, à son propre sens, celle-là même que dépeignait déjà Rabelais en 1552 dans le prologue au quart livre, où les rivalités et dissensions de l'Académie de Paris étaient qualifiées de « petites philoties couillonniformes ». Comme on sait, le pédant va peu à peu se détacher de la condition d'enseignant pour désigner un défaut général d'esprit, celui que décrit Nicole dans sa première édition de la Logique de Port-Royal. La pédanterie est un vice d'esprit et non de profession, et il y a des pédants de toute robe, de toute condition et de tous états. Contre le pédant, il faut donc développer l'art de plaire. C'est le propre de l'honnête homme, ou du reste de l'honnête femme, puisque entre les deux, comme le montre Jean Ménard dans un superbe article « Honnête homme et honnête femme » dans la culture du XVIIe siècle, l'essentiel est de faire reconnaître entre eux un rapport dialectique, autrement dit que l'un ne peut se constituer sans l'autre. Une société fondée sur l'honnêteté suppose le concours des deux sexes. La vertu des femmes au sens moins moral qu'au sens de valeur, terme qu'il entend comme son maître Louis Lavelle, n'étant en rien différente de celle des hommes, ainsi que l'écrivent Faret ou Dubosc, ce que démontrent du reste à l'envi les écrits de Madame de Lafayette, de Madame de Sévigné ou dans un ordre plus religieux, le rôle que tiennent Mademoiselle de Scudéry, Marthe Pavillon, sœur de l'évêque d'Alais, Madame Acari auprès de Bérulle, Jeanne de Chantal auprès de Saint François de Sales, la mère Angélique auprès de Saint Cyran. L'honnête homme ou l'honnête femme est celui qui refuse de faire étalage de son savoir, qui ne revendique aucune supériorité du fait de la compétence qu'il peut avoir acquise, qui s'efforce plutôt de répondre à l'attente d'autrui, meilleure façon de réussir à lui plaire, qui, avec tout interlocuteur, entend simplement traiter d'homme à homme, et de préférence, dans les termes d'une langue épurée, où l'inclusion est naturellement acquise, sans qu'il soit besoin de l'enserrer dans la mécanique de cases binaires limitées au 1, au 0 et au point d'une machine de Turing, qui n'ont même pas l'avantage de l'universalité que confère le calcul algorithmique. C'est donc bien un idéal encyclopédique au sein duquel l'université ainsi redéfinie tient bien la première place que s'inscrit Jean Ménard. Un idéal qu'on voit se préciser notamment dans le superbe texte consacré à Vauban et l'esprit encyclopédique. Un idéal qui ne peut plus se lire à l'évidence, comme à la grande époque de la Renaissance, laquelle a connu au XVIIe une crise dont elle ne s'est pas relevée, qui a été atteinte par les coups du scepticisme, qui a fait douter de la valeur de la science ainsi accumulée. Même si l'on sent poindre une certaine nostalgie, comme je l'ai dit, il ne peut donc plus s'agir de renouer avec ce désir qui se manifeste alors de réunir en somme tous les acquis de l'humanité. Désir d'autant plus naturel qu'à l'image du monde, le savoir est alors considéré comme fini, fermé. Esprit encyclopédique qui se manifeste par les nombreuses publications d'hiéroglyphes, d'images, de citations, de lieux communs, trésor non seulement de connaissances pour les savants de profession, mais aussi de formules et de symboles propres à l'exprimer, où viennent s'alimenter les créateurs, les écrivains, les artistes. Mais aux yeux du grand érudit, il ne peut non plus s'agir de ce dont nous sommes très loin, à savoir le modèle de l'encyclopédie de Diderot, qui ne mérite d'ailleurs pas son nom, puisque dictionnaire des sciences et des arts, et négligeant notamment l'histoire, elle ne fournit aux yeux de Jean Ménard qu'une vision partielle du savoir. Quel idéal pouvons-nous en ce cas viser du savoir ? Dans l'esprit de Vauban, mais me semble-t-il de Jean Ménard aussi, il devra se construire à partir de deux modèles, l'un de type humaniste, l'autre de type cartésien, chez l'honnête homme du XVIIe siècle, chez Pascal ou encore chez Descartes. Ce devra être un savoir qui ne sera plus sujet à accumulation, mais, comme le dit Jean Ménard, à génération. Car ce qui est accumulé dans la mémoire de l'humanité ne prend valeur que s'il peut être réengendré par un acte personnel de tout esprit, établissant un ordre infiniment ouvert de principes à conséquences. Il faut donc que l'encyclopédie délaisse le champ de la mémoire pour se rattacher plus expressément à l'esprit. Un modèle qui exige à la fois intelligence et sensibilité. Car si l'esprit est toujours de la partie, c'est comme le dit Fontenelle, pour plaider la cause du sentiment. Un modèle très soucieux d'une vérité humaine qui est celle de la sensibilité, qui s'associe chez l'homme de science, habité par la passion pour le savoir et pour la vérité, et qui impose, comme le fait Vauban, plusieurs choix capitaux. En premier lieu, celui de la terre, lieu du concret, opposé au monde des idées abstraites. Une terre qui, pour Vauban, et je crois pour Jean Ménard, est essentiellement la terre de France, la plus aimée. Mais une France qui n'est jamais considérée comme une réalité totalement autonome et qui doit être replacée dans la terre entière. car elle ne peut être bien comprise qu'à l'intérieur de deux totalités. L'une géographique, d'où souvent l'évocation chez Vauban non seulement des pays européens, mais des contrées lointaines, de la Chine, de l'Amérique. L'autre historique, d'où de nombreuses plongées dans l'Antiquité biblique et gréco-latine. Cet effort pour situer la partie dans le tout, pour construire une vision du monde s'organisant en cercle concentrique, est bien caractéristique de l'esprit encyclopédique, ce qui n'exclut en rien la conscience des limites. Second choix, celui de l'homme, ce qui est une autre façon de ramener le savoir du ciel sur la terre, dans le sens de la démarche fondatrice de Socrate, répétée à plusieurs reprises au cours des siècles, notamment par Descartes, mais aussi par le XVIIe siècle tout entier, âge d'or des moralistes. Mais un moraliste, comme peut l'être un Pascal, un La Rochefoucauld ou un La Bruyère, ce n'est pas quelqu'un qui fait la morale. Car bien penser ou mal penser, c'est ne pas penser du tout. La vraie morale se moque de la morale. Tel est du reste le message que délivre Jean Ménard dans sa superbe analyse de La Princesse de Clèves, où il montre, contrairement à une lecture morale du roman, d'où il découlerait que l'héroïne du roman de Madame de Lafayette donnerait l'exemple d'une excellente chrétienne qui s'inspirerait constamment des leçons reçues de sa mère Madame de Chartres, comme de son directeur de conscience, que cette lecture est insuffisante et conduite à des impasses, d'autant plus criantes du reste que chez Madame de Chartres, je cite Jean Ménard, les valeurs morales sont étroitement imbriquées dans des valeurs sociales. Fin de citation. Aussi, la véritable signification du roman ne se découvrira-t-elle que si l'on procède à une lecture, dit-il, métaphysique, qui, fournissant les harmoniques des personnages principaux, découle en réalité d'une certaine conception de la pureté de l'amour, mais plus généralement, une représentation du monde qui se caractérise par la conscience d'une impossible harmonie et d'une sorte de cassure, qui conduit, sans qu'il soit aucunement question dans le roman du reste de religion, à la quête du repos, et pour reprendre, comme le fait Ménard, le titre du bel ouvrage de celui qui fut aussi l'un de mes premiers maîtres en philosophie, Ferdinand Alquier, à un certain désir d'éternité. Ampleur du regard, souci de l'unité, telle est la forme subtile de rationalisme spiritualiste que développe Jean Ménard, qu'il rattache à l'un des grands courants du rationalisme français. Un rationalisme dans lequel la raison a partie liée avec la sensibilité, comme chez Fontenelle, comme chez Pascal, et sans doute un peu moins chez Arnaud, dont est jugé trop sec et moins souple le concept de raison. Une perception aiguë de l'irrationnel, des contradictions humaines, des faux-semblants, mais aussi de l'angoisse fondamentale qui s'exprime dans le jeu de l'amour-propre, couplée à une exigence de rationalité qui va de pair avec l'éloge du vrai, de la clarté et de la pureté, notamment de la langue, contre l'obscurité et l'ornement ou la fêterie. L'horreur que manifeste aussi Madame de Lafayette pour le style grimpé, jointe à une esthétique de la convenance, de l'harmonie, d'où l'importance que revêtent et les mathématiques et la musique. Le souci, au fond, de maintenir présente la quête de ce vieux problème des universaux qu'il évoque souvent, celui de comprendre comment l'un participe du multiple et inversement, en évitant l'idéologie et sans souscrire à quelque essentialisme de type néoplatonicien ou aristotélicien. Mais si chez Jean Ménard, l'humanisme et l'universalisme ne trouvent pas leur définition dans des essences, ils se fondent bien sur quelque chose à liquide. Si les hommes se retrouvent en la figure de l'homme du commun, appelé par Jean Ménard de ses vœux, c'est comme le disait déjà le grand Pierre Abélard, en ce qu'ils conviennent, conveniunt, dans le fait d'être homme, in esse hominem, in statu hominis. Certains jugeront que c'est peu, mais cela au moins est sûr. C'est ce qui permet notamment de comprendre pourquoi Voltaire peut se lire comme un opposant moins radical de Pascal qu'on ne pourrait de prime abord le penser. Et pour celui qui, à la différence de Jean Ménard, n'est pas un homme avec Dieu, mais un homme sans Dieu, c'est déjà beaucoup. Disons même que pour lui, à défaut d'essence, l'essentiel du moins est acquis. Voilà pourquoi ce prodigieux savant qu'était Jean Ménard, dont l'immense talent est fait de discrétion, de délicatesse, de justesse, pour qui vie sociale ne se confondait pas, tout au contraire, avec vie mondaine, a jugé si naturel de mener jusqu'au bout une vie non de retraite et de solitude, mais d'universitaire. Seul moyen de participer à la transmission et la constante réappropriation de ce savoir dont il n'a cessé d'être en quête. Pourquoi aussi il a tant tenu à prolonger ses conversations auprès de ses amis et au sein de notre académie, dont il ne manqua pas une seule des séances. Et l'on comprendra mieux enfin pourquoi, si attentif à dégager l'essence possible du concept de justice, il retint pour thème lors de sa présidence celui de la démocratie. Ce qui ne l'empêchait pas de revenir, dès qu'il le pouvait, sur les rives de la Seugne et à Chébézy. Il se dit que personne n'avait le droit de toucher à sa bibliothèque. Quand je range mes livres, j'ai besoin de le faire moi-même. C'est ma mnémotechnique, sans elle, je suis perdu. Par où l'on mesure à quel point, lorsqu'on est en présence d'un tel honnête homme, si sensible aux différents ordres, et dont le souci fut d'abord, l'âme sachant fort bien prendre soin d'elle-même, de s'employer à réorganiser l'esprit, il y a tout lieu non pas de se méfier, mais tout au contraire de se fier à celui qui, en la circonstance, a toujours cherché à y mettre de l'ordre. Merci.